Cascodeur Podcast, épisode 253. Interview GraphQL avec Stan Chollet et Jean-François James. Partie 2. Enregistré le 25 février 2021.
Voici donc la seconde partie où nous discutons de l'usage concret par les développeurs, du futur, des différents moteurs. Tous les concepts fondamentaux étaient dans la partie 1, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à commencer par cet épisode de la partie 1. Bon, alors on a un peu mélangé les choses, mais on va aller concrètement. Là, vous avez convaincu des gens, des développeurs, et du coup, ils veulent commencer. Alors, je veux faire du GraphQL, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'il y a des frameworks que je vais aller choisir? On va peut-être commencer par la partie serveur, justement, la partie back-end. Comment je fais?
Alors, moi, de ce point de vue-là, le premier conseil que je peux donner, c'est de s'assurer que l'implémentation serveur que vous souhaitez choisir dans votre technologie, que ce soit, je sais pas, hein, du Ruby, du Go, du Python, etc., que l'implémentation suive la spécification et qu'elle implémente la dernière version de la spécification. Parce que ça, c'est très important, parce que sinon, en tant que développeur, on va avoir des fonctionnalités de GraphQL intéressantes d'un point de vue schéma, etc. Et quand on va commencer à l'utiliser, on va voir que ça fonctionne pas, tout simplement parce que potentiellement la librairie elle est pas à jour avec la spec. Et donc ça, c'est l'un des premiers conseils. Le deuxième conseil, c'est de bien vérifier un peu à quel point la librairie, elle est bien soutenue d'un point de vue communautaire, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps, pour avoir vécu le sujet, ça prend énormément de temps de développer et de maintenir un moteur GraphQL. Donc faut bien vérifier ce point-là. Et si j'ai un conseil un peu plus global on va dire, c'est de peut-être commencer avec ce qui se fait de plus à jour, c'est-à-dire la partie Node.js. Voilà. C'est l'un des conseils les plus simples, ou bien évidemment aussi Tartiflette qu'on avait évoqué, mais qui est en Python pour le coup. Donc, c'est pas qu'il est moins accessible, mais on va dire Python est moins répandu que la partie Node.js.
Ok.
Je peux apporter un complément lié à l'écosystème Java. Dans le monde Java, en fait, l'implémentation de base, celle qui est partagée par tout le monde, c'est GraphQL Java. Donc là, je dirais, il n'y a pas le choix, mais c'est très bien. Donc GraphQL Java, c'est puissant, mais ça reste très basique, hein, en termes de codage. Donc en général, on met au-dessus des niveaux d'abstraction qui vont rendre plus facile la vie du développeur. Donc par exemple Speaker dont je parlais tout à l'heure qui suit une approche code first. Alors code first, ça veut dire que je vais annoter mon code Java. J'ai des annotations mutation, query, parameter, etc. Et au moment où l'application va être lancée, le schéma va être automatiquement généré à partir de l'introspection de ces différentes annotations. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'approche code first, par opposition à l'approche schema first, qui consiste d'abord à concevoir son schéma à travers un DSL, et ensuite de développer les classes Java qui vont rendre ce schéma exécutable. Donc, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui démarre GraphQL dans le monde Java, l'approche code first est plus simple à appréhender. C'est d'ailleurs celle qu'on a reprise dans MicroProfile GraphQL, hein, qui s'est très inspiré de ce qu'avait fait Speaker, quoi. Mais tout ça, derrière, ça s'appuie sur GraphQL Java, c'est vraiment le moteur d'exécution partagé par tout le monde, quoi. Et puis, MicroProfile GraphQL, on peut l'avoir aujourd'hui sur Quarkus, Wildfly, JBoss EAP, OpenLiberty, Elidon.io, donc on l'a, je dirais, dans pas mal d'implémentations. Et Speaker et GraphQL Java, on a des starters Spring Boot également pour les gens qui utilisent Spring. Donc au final, on a vraiment pas mal de choix, je vais dire, que ce soit dans le monde Spring ou plutôt dans le monde MicroProfile. avec les deux approches, code first ou schema first. Donc il faut faire le choix en fonction de, je dirais, de la culture de l'équipe qui va appréhender la mise en place de GraphQL.
D'accord. Et quand je veux écrire un client, c'est les mêmes frameworks ou on parle d'autres frameworks?
Non, les
consommateurs.
C'est vrai que c'est vraiment, y a une distinction entre les deux. Hein. C'est-à-dire que la partie serveur, comme à la fin, on va exposer quelque chose qui est spécifié, vraiment le monde du client et le monde du serveur peut être totalement différent. Et juste par expérience et par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, c'est vrai que Apollo, donc l'entreprise Apollo, qui fournit différentes briques open source et à la fois propriétaires, la partie open source, d'un point de vue client, à ce moment-là, c'était eux les plus matures d'un point de vue front-end, que ce soit dans le monde JavaScript, tout ce qui, l'intégration avec React, l'intégration avec Vue, l'intégration même aussi d'un point de vue iOS et Android, c'est eux qui proposaient les SDK les plus matures à ce moment-là, c'est-à-dire il y a deux ans en arrière.
D'accord. Donc ce que tu dis, c'est peut-être encore le cas ou c'est peut-être plus le cas, mais en tout cas, il y a deux ans, c'était ça.
Et exactement, et je les suis encore moins d'un point de vue dev, mais d'un point de vue plus parce que l'écosystème m'intéresse. Et c'est vrai qu'ils ont toujours une place assez importante dans l'écosystème GraphQL. Et si je rebondis un chouïa sur ce qu'a dit Jean-François sur l'approche serveur, c'est vrai qu'il y a deux mondes hein, je vais pas dire qu'ils se battent, mais qui se confrontent. Le monde schema / SDL first et le monde code first. Et ça a été le parti pris de Tartiflet à ce moment-là quand on l'a sorti, de faire quelque chose qui était schema first. Et on était à ce moment-là dans les tout premiers à prendre ce parti et de pousser l'usage du schéma très fortement.
D'accord.
Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est l'expérience développeur en fait. Hein. Donc c'est si jamais vous êtes plus à l'aise à manipuler le schéma, ben c'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder. Et si vous préférez directement jouer avec votre code dans votre langage, ben dans ces cas-là, peut-être que l'approche code first sera plus adaptée. Mais c'est vrai que c'est lié à l'expérience que vous souhaitez avoir avec le serveur.
D'accord. Du coup, dans le cas schéma, drivé par le schéma,
schema first.
On part du schéma, donc comme Tartiflet, ouais. Non, mais j'essayais de me faire en français là, vous voyez pas comment je dis ça. Donc Tartiflet, il a un générateur, c'est-à-dire tu dis voilà le schéma, je l'ai mis à jour, tu cliques et puis ça va rajouter des classes Python qui vont exécuter ça, ou voire même dynamiquement, ça va les.
On a plutôt suivi l'approche, on va dire les grandes lignes de Python et on n'a pas justement fait cette notion d'aller générer les objets, etc. Parce que c'est pas vraiment l'ADN de Python. L'idée, c'est qu'on a plutôt joué sur la souplesse du langage et faire confiance au développeur quand il implémente le resolver. C'est-à-dire que quand il va chercher la donnée, le développeur doit s'assurer que ce qu'il va retourner, c'est dans les types que lui, il a spécifié dans le schéma. Ce qui fait qu'il y a une souplesse assez forte d'un point de vue implémentation Python. Et après, c'est le moteur qui s'occupe de se dire, ah bah attends, la donnée, je m'attendais à une string, tu m'as renvoyé un int, moi je vais mettre une erreur et ça marchera pas. Mais l'avantage, c'est que d'un point de vue rapidité de développement et même expérience aussi, on a fait la chose la plus, on va dire, la plus smooth pour le développeur, quoi.
D'accord. Tiens, on va parler un peu des resolvers. Alors, de ma compréhension, déjà, donc vous avez une source de données quelque part, donc ça peut être un autre microservice qui peut-être expose du REST en JSON, ou voire peut-être même un autre GraphQL. C'est peut-être une base de données. Du coup, est-ce qu'il y a des types de développeurs qui vont parler SQL, qui vont parler REST, etc. Ça, c'est ma première question.
Oui, alors je pense que ça fait partie aussi de chaque librairie. Mais ce que nous on avait mis en place, c'était d'aller faire des resolvers un peu magiques qui eux faisaient des requêtes vers des API sous-jacentes soit en JSON RPC, soit en REST. Mais oui, l'objectif des librairies, je pense, c'est d'aller simplifier le boulot et de faire en sorte que si ça fait du proxy vers une autre brique logicielle, bah, c'est d'aller développer un résolveur un peu magique et de simplifier le boulot, quoi.
Mais d'accord, oui, donc c'est pas écrit pour directement cet usage-là, mais il y a en gros une librairie ou un moteur qui va t'aider
à générer. C'est là, par exemple, pour Tartiflette encore, j'y reviens, il y avait une approche add-on, c'est-à-dire qu'on a développé pour que le moteur soit
extensible.
Plug and play un peu et extensible. Bah, on avait mis en place ce système d'add-on pour que justement les gens puissent dire, OK, si je veux faire un plug avec une base de données en Postgre, on le fait. Si on veut faire avec une API REST, on le fait, etc.
D'accord. Et l'autre question que j'ai, c'est quand justement il y a plusieurs sources. Alors moi, je viens de la base de données avec j'ai fait du mapping objet relationnel, moi. Donc, c'est pas non plus complètement, je suis pas hyper loin. Voilà, un des problèmes classiques, c'est le fameux N+1 où on fait N+1 requête parce que on a pas fait une jointure qui va bien. Alors quand il y a plusieurs sources, des fois on peut même physiquement pas le faire, hein, donc dans le cas multisource, comment ça se gère, quoi, ça? C'est dans le résolveur ou c'est plutôt dans le moteur qui appelle les différents résolveurs que ces choses-là se voient ou essaient d'être corrigées?
Ça, c'est on va dire le problème auquel on est confronté après quelques semaines de production et que le trafic monte. Mais c'est vrai que pour le coup, ça vient. C'est là où le développeur ou la développeuse doivent rentrer dans l'implémentation. C'est-à-dire que là, on doit se dire, ok, on a une N+1 query et on peut l'adresser. Bah là, il va falloir mettre les mains un peu et aller plus loin dans les résolveurs, puisque comme il y a l'arbre de décision, enfin l'arbre d'exécution, il est très, enfin il est spécifié. Et donc, si jamais on veut récupérer un paramètre qui a été utilisé plus haut dans mon arbre, on va pouvoir le récupérer et on va pouvoir justement s'assurer d'aller résoudre cette notion de N+1 nous-mêmes. Mais ça, en tout cas, nous, notre côté, on n'avait pas trouvé quelque chose de magique. Il fallait le faire au cas par cas.
D'accord.
Et fallait faire une implémentation spécifique cas par cas.
Après, il y a le data loader, il y a un composant qui s'appelle le data loader qui répond à la problématique au sein d'une même requête, parce que finalement, on peut avoir des requêtes extrêmement complexes avec une arborescence très profonde. Donc, le data loader, ce qu'il propose, c'est d'aller chercher le même champ, la même information une seule fois, parce que si on a une exécution naïve, je dirais, de l'arbre d'exécution, la même information, on va pouvoir aller la chercher plusieurs fois. Et également un système de caching propre à la requête. Donc, on va dire le data loader répond à la problématique des requêtes éventuellement très complexes. Ça, c'est une réponse partielle à ta question. Et après, il y a, à mon sens, il y a à la fois le savoir-faire des développeurs et puis il y a aussi le savoir-faire du concepteur du schéma, puisque tout ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'en fait, la qualité d'une API GraphQL, c'est la qualité du schéma. Et au niveau du schéma, il faut être vraiment très vigilant sur le fait que ça peut éventuellement générer des requêtes très pénalisantes sur le serveur, voire prêter le flanc à des attaques de type DOS, etc., où on peut assez facilement mettre à genoux le serveur avec une requête un peu tricky.
Déni de service.
Ouais.
Ouais.
Déni de service
et,
en français.
Et du coup, voilà. Non, mais j'essaie parce que pour des gens qui sont pas forcément des dinosaures du métier, j'essaie de
tu as raison.
Ouais, du coup, en fait, quelque part, les différents moteurs là vont être capables de dire. Bah, si je vois une jointure entre A et B, passe sur ce morceau de code un peu spécifique que le développeur va pouvoir écrire. En fait, on peut spécialiser par pattern matching de requêtes. En gros, c'est ça que j'entends ou je fais ça un peu trop. Je suis un peu trop magique déjà.
Ouais. Alors on n'était pas assez, peut-être pas assez évolué côté Tartiflette, mais c'est vrai que. On n'avait pas été si loin. Mmh. Je pense qu'il y a des axes d'amélioration, mais c'est vrai que quand on arrive sur cette complexité, ça revient à la responsabilité du développeur et c'est pas la responsabilité de la librairie d'aller le faire. Ouais. En tout cas, nous, c'était la manière dont on l'avait appréhendé parce que sinon, on rajoute beaucoup trop de complexité et de spécificité aussi dans la librairie. Voilà.
Ok. Mais du coup, le développeur, il fait quoi? Parce que oui, du coup, on vous lui donnait pas la requête sous format de chaîne de caractères, mais il y a un arbre, de ce que j'ai compris. Et du coup, il va pouvoir naviguer sur l'arbre et dire, oula, là, il y a une jointure entre A et B, du coup.
Lui, il va le savoir parce que c'est lui qui l'a défini dans son schéma. Donc, c'est à lui de prendre les précautions. Voilà. Parce que d'un point de vue moteur, même si la librairie, elle est consciente de ce qu'il peut y avoir derrière dans l'arbre, elle peut prendre aucune décision. Donc, c'est au développeur d'aller faire en sorte que, comme l'a dit Jean-François, de mettre soit le data loader au bon endroit avec la bonne configuration, ou soit de s'assurer de préloader des data et de les renvoyer au bon endroit dans les résolveurs. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé de magie. Et c'est là où je rebondis un peu sur Jean-François quand il parle de déni de service. Je pense qu'on est sur un des points négatifs, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué les points négatifs de GraphQL. C'est l'un des points négatifs. C'est-à-dire que, en exposant énormément de données à son client, il faut prendre les précautions d'usage, les précautions d'une requête qui n'est pas bien formée, une requête qui prend trop de ressources, etc. Il faut prendre les précautions nécessaires.
Est-ce que justement, parce que effectivement, c'était une de mes questions quand moi j'ai vu GraphQL arriver, c'est ça, c'est que si le client qui disons, quand on a un esprit sécurité, on a un esprit un peu adversaire, d'adversaire, du coup, on se dit, bon, comment est-ce qu'ils vont pouvoir, là, récupérer toutes mes données et me faire du déni de service? Donc, est-ce qu'on est capable, justement, est-ce que c'est commun de dire, voilà, mon schéma, il permet de faire cet univers de requêtes, mais par contre, concrètement, dans l'implémentation, il y a des choses que je vais pas autoriser, donc je vais retourner une erreur. Et est-ce que on est même capable de dire, voilà, grâce au schéma, vous avez ces idées potentielles de requêtes, mais je vais pouvoir exprimer le fait qu'il y a un sous-ensemble qui n'est pas autorisé, par exemple la jointure entre A, B et C, vous aurez pas le droit de la faire, vous pourrez faire que entre A et B ou entre B et C.
J'ai une réponse, mais je peux laisser Jean-François parce que j'ai pas mal parlé.
Pour se protéger contre les dénis de service, il y a plusieurs approches. On peut effectivement évaluer la complexité de la requête. Donc il y a plusieurs stratégies d'évaluation de la complexité. Il y a le plus simple, c'est de calculer la profondeur. Donc là, ça nécessite pas une analyse fine de la requête, on va dire, à partir de 5 niveaux de profondeur, on dit stop. Ça peut assez facilement arriver avec un schéma, même un schéma bien conçu. Donc ça, c'est une première approche. Et puis après, il y a des approches plus subtiles qui consistent à associer des poids au résolveur, des poids de complexité. Et ce qu'on fait, c'est que avant d'exécuter l'ensemble des résolveurs, on va calculer la somme des poids de complexité. Et on peut définir un maximum, un seuil au-delà duquel on n'ira pas. Parce qu'on estime que ça peut mettre à genoux le serveur, etc. Et ça, on peut le faire de deux manières. On peut le faire soit en amont du serveur GraphQL dans une API gateway. Donc il y a des API gateway comme WSO2 par exemple qui embarquent ce genre de fonctionnalité. On peut aussi le faire à l'intérieur du serveur avec des annotations. C'est ce que permet par exemple Speaker. Donc là, ça va être plutôt du tout ou rien, par contre, ça, de ce que je connais. Ça va pas être, tiens, je t'en exécute un bout, mais pas l'autre. Ça va être, oulala, tu me demandes un truc qui, globalement, a l'air vraiment trop compliqué, je préfère te dire non.
Et si je peux rajouter, parce que j'avais eu l'opportunité d'aller parler à GraphQL Conf à Berlin, il y a 2 ans. J'avais beaucoup échangé justement avec des ingénieurs de chez Facebook qui parlaient aussi. Et l'un des paradigmes qui commence un peu que je commence un peu à voir, hein, dans ce monde-là, c'est que finalement, et c'est là un peu aussi ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des forts volumes sur leur API GraphQL, qui commencent à avoir une approche qui est de se dire on va accepter ou refuser des requêtes sur notre serveur. Et ça, c'est le parti pris de Facebook. C'est-à-dire que Facebook, vous ne pouvez pas voir la requête GraphQL directement depuis votre front-end. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir la requête GraphQL qui est exécutée sur les serveurs de Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ils vont juste prendre un identifiant de requête qu'ils vont mettre dans le front-end avec des paramètres qu'on va envoyer à la requête. Et en fait, c'est le serveur qui connaît la requête à exécuter et on va juste lui dire « Tu exécutes la requête qui a l'identifiant Intel et voici les paramètres. » Ce qui fait que le serveur, en fait, il maîtrise et il a accepté au préalable la requête qui va exécuter.
Ah, d'accord. Donc, la liste des requêtes est prédéfinie.
Exactement.
Et elles sont pas libres. OK, d'accord.
Et ça, c'est un des paradigmes que je commence un peu à voir quand j'échange avec des personnes de chez différentes entreprises qui ont des gros volumes. C'est de se dire, on a une liste prédéfinie de requêtes qu'on accepte. Et ça, ils le mettent directement intégré dans leur CI en disant, OK, en tant que développeur front-end, j'ai fait telle requête. On se rend compte qu'elle est bonne d'un point de vue performance. Hop, on la prend, on l'extrait du front, on la met dans une liste prédéfinie côté back, et on renvoie un identifiant et voilà, le client appellera l'identifiant avec les paramètres. Voilà. Ce qui est un peu dommage parce que mais c'est juste pour se prémunir justement des mauvais usages et ça c'est aussi une des manières de se dire bah finalement le serveur il répond pas à des requêtes GraphQL, il répond que à des identifiants.
Du coup, ça, c'est explicitement... Ah oui, bah oui, c'est forcément explicitement exposé. OK.
Voilà. Ce qui, à mon sens, dommage, mais ce qui fonctionne bien si on est suffisamment équipé d'un point de vue automatisation et CI avec les clients. Et ça, on commence à voir ça dans les outils aussi Apollo. J'ai vu comment avoir des choses où ça nous permet d'avoir des listes de requêtes prédéfinies. Et si jamais la requête elle fait pas partie de cette liste, ben elle est refusée tout simplement.
Mais du coup, ce que ça coupe en cas d'usage, c'est le client qui n'est pas développé par la société elle-même, c'est-à-dire une API ouverte.
Voilà, exactement. Ouais. Après, si vous utilisez l'API de GitHub, la dernière, la V4, je crois, qui est en GraphQL, bon bah là ils peuvent pas faire ce genre de cas, mais ils vont peut-être vous limiter l'usage, rate limiting, et les notions de poids, comme l'a dit Jean-François, par exemple.
Ouais. Ah, de poids? Attends, mais du coup, j'ai dû m'endormir dans le truc, là. C'est quoi, du coup, la notion de poids?
Bah, c'est essayer de connaître la complexité d'une requête avant qu'on l'exécute côté back-end. C'est de se dire, OK, elle va avoir tel poids sur mon infra et je l'exécute, oui, non, quoi.
Ouais, statistique, OK, d'accord.
Voilà.
Okay.
Tu t'es endormi, Emmanuel?
Non, parce que j'avais pas entendu poids ou j'avais pas compris que c'était ça. C'est qu'en gros, il donnait un poids statistique à la requête et du coup, il essayait de la filtrer ou pas.
Mais ouais, c'est comme ça, tu disais, c'est ça l'idée. Coup, ouais.
Maintenant, je comprends mieux ta remarque. C'est que c'est un petit peu, c'est comme le machine learning. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Des fois, c'est refusé et puis t'es là, OK, pourquoi? Et c'est pas fin en grain du genre, ben non, mais je laisse cette requête parce qu'elle a l'air grosse en poids, mais en fait, en pratique, ça va. Enfin, voilà, t'es peut-être pas forcément 100% en contrôle quand tu définis ces restrictions de poids.
Ouais, t'es obligé de faire des compromis, quoi.
OK. Moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour parce que j'avais toute une section sous le capot, mais en fait, on a pas mal discuté dans les approches théoriques, là, qui définit GraphQL, qui l'implémente, les clients, les serveurs, et puis je me rappelle plus déjà le nom, là, le data planner, non pas data
loader,
data loader, voilà, qui lui va dire, bah tiens, moi je sais comprendre SQL, donc je te fais le mapping entre ta requête GraphQL et ta base de données, par exemple, avec peut-être de la metadata. Donc tout ça, je crois qu'on l'a couvert. Est-ce qu'il y a des choses que il y a des choses qu'on n'a pas couvert là pendant cette conversation et que vous...
Moi, je voudrais revenir sur les aspects clients. On en a parlé un petit peu. En fait, si on fait une analogie avec le monde REST, on a deux clients qui sont quand même très intéressants quand on découvre GraphQL. Il y a GraphQL qui est en fait une interface web qui pour le coup ressemble pas mal à ce qu'on peut avoir avec du Swagger UI, et il y a Playground qui est plus lui un client lourd et qui ressemble plus à un Podman. D'ailleurs, au passage, je crois que Podman supporte GraphQL aussi maintenant. Et en fait, ça, c'est deux outils assez essentiels parce qu'ils fonctionnent de la même manière. Ils ouvrent trois fenêtres.
C'est quoi Podman pour toi?
Podman, pour moi, c'est le...
Qui remplace Docker ou...
C'est le client REST. C'est le client REST. Alors, c'est Podman ou je me trompe de nom de référence, là, qui...
Oui, il y avait le client... Postman.
Postman, excusez-moi. Bah, effectivement, je suis obsédé par les pods. Postman.
Donc, je connais la personne qui a démarré Podman, du coup j'étais un peu confus là, genre, c'est pas trop son niveau.
Excuse-moi pour la confusion. Donc t'as GraphQL qui ressemble à Swagger UI et t'as Playground qui ressemble à Postman pour le coup. Et en fait, quand on découvre le monde GraphQL, c'est deux clients qui sont assez essentiels, qui offrent des fonctionnalités comparables. Donc en gros, ils ouvrent trois fenêtres, une fenêtre d'introspection du schéma. Donc qui permet de descendre dans les types, dans les mutations, etc., de manière assez sympa. On voit donc tout ce qui est exposé par le schéma, et une fenêtre d'édition avec de l'autocomplétion des requêtes, donc que ce soit des queries ou des mutations, etc., et une fenêtre d'affichage des résultats, on va voir les datas, les erreurs, etc. Et ces deux clients-là, à mon avis, sont vraiment essentiels pour quelqu'un qui découvre GraphQL, parce qu'en fait, ils permettent très rapidement d'appréhender la techno, de voir comment on se balade dans un schéma, de découvrir la syntaxe du langage. Et moi, je me suis beaucoup amusé avec les deux, d'ailleurs, en particulier quand on suit une approche code first, c'est assez rigolo de voir La possibilité de se balader dans le schéma exposé par les méthodes qu'on a annotées, query, mutation, etc., et de s'exercer à envoyer des requêtes, quoi. Donc, je voulais juste citer ces deux clients-là qui, à mes yeux, ont beaucoup de valeur pour les gens qui veulent découvrir GraphQL.
Et est-ce qu'ils t'aident à écrire les requêtes, justement, parce que comme on peut avoir des JPQL, tu vois, de l'autocomplétion.
T'as de l'autocomplétion. T'as de l'autocomplétion sur les champs, donc typiquement quand tu vas descendre dans ton arborescence, tu vas descendre dans une relation ou autre, tu vas pouvoir descendre plus ou moins profond en fonction de ce que tu veux, et à chaque fois avec l'autocomplétion, tu vois tous les champs qui sont à ta disposition, tu cites ceux que tu veux récupérer, etc. Et tu peux même mettre au point. Pour moi, c'est un bon moyen de mise au point de tes requêtes. Que après, tu peux quasiment faire une photo de tes requêtes et puis les rejouer, par exemple, très facilement dans le cadre de tes unit tests, ou si t'as pas un outil de très haut niveau, tu peux réinjecter ces requêtes dans tes tests, par exemple.
Ok, donc cool. Stan, t'avais des trucs toi ou?
Je suis assez aligné avec Jean-François. Pour moi, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas abordé comme ça, mais c'est l'un des gros avantages. Hein. C'est l'expérience de consommation d'une API GraphQL à travers des outils comme GraphQL, Playground, etc. Donc ouais, j'insiste là-dessus parce que si jamais vous voulez débuter avec GraphQL, c'est par là qu'il faut commencer, quoi. C'est aller consommer une API existante avec des outils comme GraphQL. Le bon exemple pour moi, ça peut être l'API ouverte de GitHub. Voilà. Et ils ont les outils, c'est à disposition, vous pouvez y aller, vous pouvez tester. Et là, vous allez voir un peu la puissance qu'il y a sous le capot avec l'autocomplétion, etc. Non, c'est super. Et voilà, ça, c'est le point particulier. Après, le deuxième point, c'est plus d'un point de vue, on va dire architecture, etc. C'est pas un choix qui se prend à la légère. Il faut comprendre pourquoi on intègre ça dans notre architecture et voir si vous avez peut-être, je sais pas, des problématiques entre la communication entre vos équipes front-end, vos équipes back-end, etc. Parce que à la fois ça résout des problématiques GraphQL, mais ça va en créer d'autres. Ça va en créer aussi d'autres qui sont complexes à résoudre. Donc faut peser le pour et le contre et faut prendre le temps de bien faire des POC et voir si c'est vraiment adapté à votre usage.
Tu aurais des clés d'entrée justement pour des gens, enfin tous les deux d'ailleurs, qui sur OK, bon bah le reste je connais ou c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qui fait que je voudrais
déjà partir, ça part, c'est voir d'un point de vue outillage, c'est-à-dire que je sais pas si vous êtes sur une techno X, de voir un peu pas uniquement la librairie back-end par exemple, mais de voir si s'il y a pas mal de d'outils qui vont simplifier dans par exemple, moi je me rappelle, on avait testé la librairie Ango à l'époque. Mais il y avait juste uniquement le strict nécessaire d'un point de vue serveur. Il n'y avait pas d'outillage à côté sur le tracing, l'observabilité. Et nous, la performance, à ce moment-là, c'était très important. On était assez tôt dans le process, mais voilà. Et il n'y avait pas d'outils, donc il aurait fallu tout développer. Donc ça, c'était une des choses qu'on ne voulait pas avoir à développer nous-mêmes. Enfin, il y avait voilà, ce genre de problématiques et regarder les retours d'expérience parce qu'à la fois il y a pas mal de boîtes qui y vont, mais c'est des gros acteurs qui ont aussi les moyens de pouvoir embrasser tout l'écosystème de GraphQL. Là, comme quand on parle de Facebook qui met tout ce qu'il faut pour protéger son back-end avec une liste prédéfinie, ça c'est des questions à se poser, surtout si vous êtes dans un gros acteur qui est fort consommé, qui a des données critiques, etc. Faut juste faire attention.
Ouais. Ouais, je sais que la mode, c'est les API ouvertes, mais t'es peut-être un peu plus en confiance quand ton API, elle est interne. Ah oui, remarque, non, parce que ton front, c'est du web, mais du coup, techniquement, tu... Ouais. Non, j'ai rien dit. Non, je m'étais dit, si t'es dans un univers contrôlé, c'est un peu plus... Tu vois, tu peux être plus flexible entre tes équipes, et du coup, c'est top.
Exactement.
Sauf si, effectivement, au final, ta page web, elle est affichée chez un client final, et du coup, il peut aller... faire view source et puis s'amuser. Donc bon.
Voilà. Après c'est faisable. Faut juste prendre les précautions sur l'introspection, ne pas se faire, on va dire comme l'a dit Jean-François là, de pas subir une grosse charge parce que l'usage il a été détourné. Voilà. C'est juste des précautions à prendre. Faut juste vérifier qu'elles sont disponibles, et si elles sont pas disponibles, ça sera à vous de les développer. Donc faut juste en tenir compte au départ, quoi. Parce que dans le monde REST, on est déjà, il y a quand même un équipement qui est là depuis 20 ans. C'est beaucoup plus mature.
Ouais.
Après, pour revenir sur ta question, pour moi, il y a deux niveaux pour appréhender GraphQL. Il y a un niveau, on va dire, élémentaire. Donc, typiquement, quand on vient du monde REST, on peut assez facilement acquérir un premier niveau de connaissance avec, MicroProfile GraphQL par exemple, qui suit une approche code first qui est assez intuitive, hein, qui ressemble quand même beaucoup à JaxRS par exemple, GraphQL Playground. Donc déjà on peut avoir un premier niveau de compréhension de la techno. Après pour moi la marche elle est quand même haute pour concevoir un schéma qu'on va exposer publiquement dans la durée. Et là je pense que comme l'a dit Stan, faut vraiment avoir de la réflexion, du recul, bien penser à sa chaîne CI/CD de bout en bout. Donc on commence à voir l'écosystème GraphQL s'enrichir de notamment de framework de test, de choses comme ça. Donc on commence à avoir un bon niveau de maturité, mais il faut pas s'illusionner, j'ai envie de dire, par l'apparente facilité de GraphQL quand on veut mettre le truc en prod, quoi. C'est parce qu'une fois que le schéma il est exposé publiquement, c'est très dur de revenir en arrière si on s'aperçoit qu'on a fait une grosse erreur de conception ou autre. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir et puis probablement s'entourer de personnes qui ont déjà fait le truc quand on veut passer en prod, quoi, avec ça.
D'accord. Super. Bon, du futur, on en a parlé un petit peu avec Fédération par exemple. D'autres points que vous voyez là autour du futur de GraphQL?
Bah le point que j'ai en tête, c'est depuis le départ de, on va dire, un peu du papa de GraphQL, hein, Lee Byron, qui a quitté Facebook pour rejoindre une autre société. Moi, je vois, c'est purement personnel hein, pour le coup, je vois moins d'activité dans la spécification, dans les working groups, parce qu'on était, on les suivait assez, on était assez proche des working groups, justement. Et moi, je vois moins d'activité. J'ai une question ouverte, est-ce que c'est temporaire ou pas, je sais pas, mais voilà, juste jeter un coup d'œil sur comment va évoluer la spécification, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles spécifications depuis 2018.
Ouais, 2018.
Alors qu'avant ça a évolué plus rapidement, voilà. Donc c'est juste le point d'attention que j'ai, mais rien d'alarmant, il y a des gros acteurs qui sont dessus, donc ça va pas mourir demain. Mais c'est juste le petit point d'attention que j'ai.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Stan, il y a Andy Marek qui est le lead dev de GraphQL Java, qui est vraiment le moteur de base, qui a publié un article de blog là-dessus, justement, parce que moi aussi je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas de version depuis 2018. Et en fait, il explique que le mécanisme d'évolution de GraphQL passe par un mécanisme de merge request où, en fait, il y a plein de changements qui se passent constamment sans que forcément il régénère une version complète du truc, quoi. Donc apparemment, ça évolue quand même pas mal concrètement. Il y a pas mal d'évolutions. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est ce décalage entre ces évolutions qui ont l'air d'être implémentées par les différentes implémentations des différents langages et le fait que la spec, le document de spec officiel, lui, reste sur la version de 2018.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une question sur est-ce que la communauté, notamment qui est derrière cette fondation, elle va être capable de s'ouvrir et d'avoir une communauté qui va pouvoir être là, même si Facebook en fait moins? Ou est-ce que justement c'est un peu c'est le challenge du jour, quoi?
Ouais, pour moi, c'est lorsqu'il y a eu l'annonce à la GraphQL Conf à Berlin, là, sur la création de la fondation, le rapprochement avec la Linux Foundation, etc. C'est un gros changement de gouvernance pour GraphQL. Ouais. Et je pense que voilà, faut qu'ils arrivent, faut que, on va dire, le groupe qui décide, faut qu'il arrive à prendre le virage, quoi, tout simplement.
Ouais.
Bon, après, il y a du beau monde, hein, la fondation GraphQL, hein, il y a vraiment, on va dire, tous les grands acteurs du web sont présents. Je pense que c'est assez actif, c'est assez soutenu. Pour moi, c'est juste leur stratégie de mise à jour du document de version. J'ai un peu de mal à comprendre. Je pense qu'il y aurait largement matière.
Parce que du coup, je vais sur spec.graphql.org. C'est là où du coup il y a en tout cas les specs. Et du coup, il y a un truc qui s'appelle le working draft qui a été mis à jour, par exemple, le 18 janvier la dernière fois.
Ouais. Ouais,
ce qui est difficile, c'est que tu vois pas de changelog, en gros.
Alors, il faut aller sur le projet. Il y a tout un mécanisme de merge request qui permet de tracer tout ça. Mais ouais, ça manque un peu de lien, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression que ça bouge quand même. Hein, ça bouge quand même. C'est pas inerte. Lee Byron, il était très très charismatique, donc il passait très bien, on le voyait beaucoup, et je pense qu'il incarnait GraphQL. Il y a plus, on va dire, ce personnage avec cette aura, mais je pense que l'écosystème vit bien. Le seul truc, c'est effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre la gestion des versions derrière.
D'accord. D'ailleurs, là, bon, je fais mon navigateur de base, mais effectivement, je trouve pas, par exemple, tu me dis c'est une merge request, mais en tout cas, je trouve pas le GitHub ou le GitLab ou le Gerrit qui est en dessous, par exemple. Là, à partir du site, quoi.
Je chercherai, je peux pas te le donner en live, mais je te l'enverrai.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Ouais, c'est sur GitHub, c'est sur GitHub, c'est ok.
Si tu regardes GraphQL Java, ça évolue vraiment très très régulièrement. Hein. Il y a le moteur d'exécution GraphQL Java qui suit de très près toutes ces merge requests. Donc lui, il bouge tout le temps. Donc ça prouve que ça vit quand même tout ça.
D'accord. Donc je l'ai trouvé. Du coup, c'est GraphQL/GraphQL-spec. Donc tout ce que tu dis, c'est que les clients, ils travaillent même sur le working draft, en fait. Ils implémentent le working draft, ou ils peuvent, en tout cas.
Ouais, tout à fait.
Et, ouais, exactement.
D'accord. Bah oui, il faut réaliser de temps en temps, les enfants.
C'est là où ça peut porter à confusion, des fois, sur des features qui sont dans la dernière spec, mais qui sont dans le working draft, et que des gens commencent à utiliser, qui sont pas validés. Voilà, c'est là où il y a un chouïa de flou, mais c'est pas des gros problèmes.
Oui, parce que techniquement, ils peuvent évoluer, ces trucs. J'imagine, parce que c'est pour ça que c'est en working draft, d'accord. Ok, bon, bah sur ces mots semi-dépressifs, malgré tout, j'espère que ça va vous motiver quand même pour l'utiliser. Et puis, et merci à vous deux d'avoir répondu d'avoir fait cet échange. Et désolé, Stan, je viens juste de voir ton message. Donc désolé pour le petit retard que je t'ai fait prendre. Et puis, à la prochaine tous.
Merci.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.